Vous voulez bien prendre place? Je vous propose, en point d'information, de vous parler de deux sujets. Le premier, c'est le pacte Lorrain, qui ne relève pas directement de nos décisions de conseil municipal, mais qui peuvent intéresser les présents. Je le ferai avec l'aide de Gilbert Krausner, qui était un acteur important de ce pacte. Et puis, dans le droit fil de la lettre que m'ont envoyée, pardon, M. Thiel et Mme Zimmermann, nous pourrons parler du centre Pompidou-Metz. Auparavant, je voudrais vous donner la liste des excusés. M. Scuderi donnait procuration à M. Koenig, M. Fonté procuration à M. Martallier, Madame Olesinski, procuration à M. Planchette. Madame Friche-Renard, excusez pour le début de la séance, procuration à M. Perraudeau. M. Tron, excusez pour le début de la séance, procuration à M. Lecadir. M. Belhadad, excusez début de séance, procuration à Mme Palaise. Madame Saadi, excusez pour le début de la séance, procuration à Mme Sallusti. M. Toulouse, excusez pour le début de la séance, procuration à M. Ulluy. Mme Leblanc, procuration à M. Darbois. Monsieur Etner, procuration à Madame Zimmermann. Madame Stemart, excusez pour le début de la séance, procuration à Monsieur Aldrin. Et Madame Beaupetit, procuration à Monsieur Thiel. Voilà. Et le docteur Califé, procuration à Madame Letty pour le début de la séance pour le docteur Califé. Très bien. Merci. Et donc, s'agissant du pacte Lorrain, je vais vous donner quelques éléments relatifs aux conséquences pour la ville de Metz. Il s'agit donc d'une feuille de route pour les 3 années à venir pour la Lorraine et qui sont guidées par 3 objectifs et 16 actions opérationnelles. Oui. Alors, au total, il s'agit de 300 millions d'euros dans des projets cibles et 300 millions d'euros dont on attend à terme la levée de 1,5 milliard de retombées par effet de levier. Alors, s'agissant de la ville de Metz, ce qui nous intéresse le plus, c'est les conséquences pour notre ville de la vallée européenne des matériaux, de l'énergie et des procédés. En effet, la Lorraine deviendra la vallée européenne des matériaux, de l'énergie et des procédés. Et dans cette perspective, Metz est située au cœur de ce dispositif. Alors, l'implantation de l'Institut de recherche technologique, qui est un véritable pôle de référence mondiale dans le domaine des matériaux, de la métallurgie et des procédés, incluant l'élargissement aux composites et aux assemblages multimatériaux, l'IRT rassemblera de 250 à 300 chercheurs publics et privés à l'horizon 2021. Alors, tout ne sera pas à Metz, mais le cœur du dispositif sera à Metz. L'implantation, alors ça a été confirmé aujourd'hui par le président de la République, l'implantation sur le campus du Technopôle d'une plateforme régionale de transfert de technologie, CEATEC, il s'agit du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, elle permettra d'accroître la compétence technologique des entreprises lorraines par des contrats de recherche partenariales et d'aider la maturation de certains résultats issus des laboratoires des universités de l'Université de Lorraine et pourra aussi servir d'appui aux start-up, le CEVATEC, qui est d'ores et déjà implanté sur un des satellites du CESCOM, dans l'ancienne bibliothèque universitaire du Technopôle. La finalisation de l'installation d'un SAT Grand Est, société d'accélération du transfert de technologie, elle permettra de renforcer la professionnalisation du transfert de technologie et d'offrir des prestations de haut niveau et des moyens de maturation à proximité des équipes de recherche. L'Institut Lafayette, enfin, qui est tout à fait dans cette logique-là, et qui est en phase de fin de construction de l'immeuble, qui est destiné au développement d'un centre de référence international dans le domaine de l'optoélectronique, avec l'objectif de faire naître une filière nouvelle en Lorraine. Il s'accompagnera de la création d'un campus international en ingénierie sur l'optoélectronique et l'énergie, qui permettra d'identifier sur site un pôle d'excellence spécifique, formation, recherche, innovation, avec les structures nationales et internationales partenaires. Alors, il n'y a pas que ça. Dans les autres domaines qui ne sont pas spécialement tournés sur Metz, il peut y avoir des conséquences sur notre ville. Alors d'abord, la ville de Metz s'inscrit dans la dynamique de l'Institut de l'autonomie qui doit voir le jour à proximité du nouvel hôpital de Mercy. Cet Institut de l'autonomie entend structurer un pôle de recherche et de transfert de technologies dédié à l'autonomie des personnes en situation de handicap. L'industrie de santé fera de la Lorraine un territoire de référence pour l'e-santé et la silver economy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le franglais up-to-date, il s'agit de l'économie liée aux cheveux blancs. Silver, c'est les cheveux blancs. Et donc, le CHR de Metz-Thionville prendra part activement à cette évolution de l'accès aux soins dans le cadre de cette e-santé et de cette silver economy. La ville de Metz, qui accueille la plus grande usine de moteurs diesel du monde sur le site PSA, enfin l'agglomération Messine, j'entends, bénéficiera en outre d'un renforcement des ressources pour l'industrie automobile en direction des nouvelles mobilités, véhicules électriques, véhicules hydrogène et d'un partage facilité des technologies et savoir-faire du territoire. Et enfin, nous accueillerons un pôle d'appui à la formation vétérinaire des 4 écoles vétérinaires françaises. Alors, cette affaire qui remonte à plusieurs années n'est pas abandonnée. J'en ai parlé tout à l'heure au président de la République et j'entends bien poursuivre dans cette direction puisque c'est un besoin national. Alors, cette option est citée dans le pacte et pour l'instant n'est pas financée, mais nous allons poursuivre. Et enfin, dans des domaines importants aussi, vous avez noté les 4,6 millions d'euros qui ont été provisionnés pour le renforcement du centre Pompidou. Je reviendrai tout à l'heure sur les décisions qui ont été prises cette semaine dans l'intérêt du centre Pompidou-Metz. Et pour le reste, nous participerons activement au développement du numérique comme soutien à l'activité économique via des quartiers économiques et la création d'entreprises. Aide de 3,1 millions d'euros pour les quartiers numériques. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Je vais demander à Gilbert Krosner, qui s'est penché longuement et fortement sur ce programme et ce projet, de détailler un certain nombre de choses qui nous intéressent directement. Monsieur Krosner, vous avez la parole.
Oui, pour quelques minutes, monsieur le maire, je vais essayer de donner un peu mon point de vue par rapport au pacte. Alors, un élément moi, qui me semble important, c'est de dire on peut effectivement discuter de la méthode de travail, discuter de la confidentialité qu'il y a eu autour de la création de ce pacte, mais je trouve que ce pacte présente enfin une vision stratégique pour la Lorraine et notamment pour l'industrie du XXIe siècle. Ça me semble extrêmement important. Donc, ce pacte-là, c'est une vision stratégique pour la Lorraine par rapport au XXIe siècle. Le deuxième point, c'est... Alors, cette stratégie repose, en gros, sur 5 piliers. En gros, le pacte, si on veut bien comprendre, moi, je le définis en 5 piliers. Le premier pilier, ça a été rappelé par M. le maire, c'est la reconnaissance, la labellisation de la Lorraine comme étant la vallée européenne des matériaux et de l'énergie. C'est quand même intéressant que de Matignon au président Hollande aujourd'hui, tout le monde dit la Lorraine, effectivement, c'est une référence en ce qui concerne les matériaux et l'énergie. C'est un point extrêmement important. Alors, si vous prenez une carte de France, on n'a pas le temps de vous la présenter là, on représente la Lorraine avec tous ses atouts en ce qui concerne les matériaux et l'énergie, on voit que la Lorraine est différenciante sur ces thématiques-là. Donc, incontestablement, on a des atouts, et là, grâce au pacte, on peut essayer de les valoriser. Alors, on a aussi des éléments forts aujourd'hui d'attractivité et de lisibilité autour des matériaux et de l'énergie. Et je pense que c'est des choses qui existent déjà aujourd'hui. Et avec Metz Métropole Développement, avec Thierry Jean, on a beaucoup travaillé autour de ces questions-là. Alors, je voudrais citer trois exemples. Premier exemple, il y a une semaine, Daniel Lier, un groupe qui est à 1000 km de Metz, il a inauguré sur le Technopôle un centre de recherche sur l'acier. C'est à la mode, vous allez dire, le président a annoncé la même chose aujourd'hui. Mais c'est quand même intéressant de voir. Alors, lorsqu'on a posé la question aux gens, aux chercheurs, pourquoi ils s'étaient installés à Metz, ils ont dit il y a deux raisons essentielles. La première raison, c'est qu'on est au cœur d'un marché de 300 millions de personnes, et là, on a tous nos clients. Et deuxième élément, il dit de plus en plus, Metz et la Lorraine, vous êtes très lisible en ce qui concerne les matériaux. Donc là, incontestablement, c'est un point important en ce qui concerne la formation, la recherche et les entreprises. Deuxième point, on a eu l'affaire avec... Enfin, pas l'affaire, on a eu PSA. Lorsqu'on a inauguré, on a posé la première pierre de l'Institut Lafayette, il y a le directeur de la recherche de PSA qui a dit « on va créer un open lab en Lorraine ». Il a dit « je vais vous expliquer pourquoi ». Vous prenez une carte de France, encore une fois, et on voit la Lorraine, qui est clairement située comme une référence sur les matériaux et sur la recherche de développement en ce qui concerne les matériaux. Deuxième point. Et troisième point, on a reçu il y a quelques jours avec M. le maire le nouveau directeur de Centrale Supélec, Hervé Biosser. Et il a dit, moi aussi, je suis intéressé par ces thématiques matériaux et énergie. Et nous, à l'école centrale, on travaille sur la mécanique, on travaille sur la chimie, on travaille sur l'énergétique. Et donc, on a l'intention de venir, ça sera décidé en 2014, mais d'installer une partie de l'école centrale sur le territoire de Metz. Donc, on commence déjà à avoir une forte attractivité grâce justement à cette label, cette référence sur les matériaux et l'énergie. Alors, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est les filières. Alors, en dehors de la filière des matériaux et l'énergie, le document reprend 3 ou 4 filières sur lesquelles la Lorraine et sur laquelle notre territoire, on peut se situer. Alors, je prends rapidement, c'est le bois. On a beaucoup parlé du bois en Lorraine. On a un déficit au niveau de la balance commerciale de la France de 6 milliards d'euros au niveau de la filière bois. Et c'est quand même intéressant de dire aujourd'hui, on peut avoir des éléments pour reconquérir ce marché et la Lorraine et peut être un des atouts de cette reconquête. L'agroalimentaire, l'aéronautique et l'industrie automobile. Donc c'est des thématiques, des filières sur lesquelles il faut qu'on travaille davantage, on terminera, Madame Zimmermann, mais sur l'automobile, on voit qu'aujourd'hui, on a une visibilité, Monsieur le maire a parlé de PSA, avec tous les éléments, c'est quand même 6 000 emplois directs, si on rajoute les emplois périphériques, ça fait 10-12 000 emplois qui dépendent de l'industrie automobile dans un périmètre d'une vingtaine de kilomètres, c'est extrêmement important. Donc on a des filières identitaires sur lesquelles, incontestablement, on a des choses à faire, et ce pacte-là va nous aider à progresser et avancer. Troisième pilier, c'est l'attractivité à l'aménagement du territoire. Alors, c'est autour de projets qui ne concernent pas directement Metz, mais comme on est une capitale régionale, on a tout intérêt à nous intéresser à ces projets. Quand on parle d'Alzette-Belval, on est intéressé, on est concerné. Et puis, il y a le tourisme et la culture, qui sont des enjeux extrêmement importants dans l'économie du XXIe siècle et sur laquelle le pacte peut nous apporter des éléments intéressants. Quatrième pilier, c'est la gouvernance. Je pense que cette partie du document, lisez-la bien, c'est un document qui fait 160 pages, je ne sais pas si tout le monde l'a, mais c'est extrêmement intéressant de dire qu'il faut qu'on soit sur une gouvernance innovante, notamment au niveau du dialogue social. La Lorraine a une histoire, une richesse au niveau du dialogue social, et je pense que là, il faut essayer de confirmer et de développer cette richesse-là au niveau de la région. On a beaucoup insisté dans l'écriture de ce pacte-là, en disant les choses se réalisent en Lorraine qu'à condition que le dialogue social soit amélioré dans cette région. Le cinquième pilier, je finirai là-dessus, c'est tout ce qui touche à l'ingénierie financière. Alors, Monsieur le maire a dit, on a 300 millions, c'est 150 millions du conseil régional, 150 millions de l'État. Il faut savoir que dans les 300 millions, il y a déjà 10%, c'est pour le CEATEC, sur ces 3 premières années, le CEATEC, c'est 30 millions d'euros. Donc, comme quoi, le CEA, c'est une opération extrêmement importante sur laquelle je pense que ça va être un des atouts clés stratégiques de notre territoire par rapport à son attractivité et sa lisibilité. Donc, il y a deux fois. Et puis, il y a un effet levier, on dit 1,5 milliard. Et là, on dispose d'un certain nombre d'atouts dans le pacte à développer, encore une fois, que si on est en capacité dans cette région et même au niveau de l'agglomération de mieux travailler ensemble pour faire des propositions. Et là, on peut avoir un certain nombre de soutiens, que ce soit des soutiens au niveau du commissariat général à l'investissement, que ce soit au niveau de la caisse de dépôt et de consignation, que ce soit à la BPI France, que ce soit à la BUI, OFEI, et que ce soit aussi au niveau des programmes opérationnels européens et des appels à projets européens. Voilà en gros sur les 5 grands piliers sur lesquels repose ce pacte-là. Je pense que c'est... souvenez-vous, les anciens s'en souviennent un peu. Il y a quelques années, il y avait la mission Blanc. On avait confié, le président de la République avait confié à Premier ministre, et confié au préfet Blanc un rapport qui devait justement travailler sur la Lorraine pour essayer de redynamiser son économie. Quand le rapport est sorti, qu'est-ce qu'on a fait de ce rapport? On l'a mis à la poubelle. Pas nous, hein, mais le président, le premier ministre de l'époque, on dit on veut plus ça, et on a renvoyé le préfet Blanc. Aujourd'hui, je pense qu'on a une chance avec ce pacte-là, c'est d'essayer de redynamiser l'économie lorraine Je rappelle un chiffre quand même, on a détruit 50 000 emplois industriels entre 2000 et 2010 au niveau de la Lorraine. Le président l'a rappelé aujourd'hui, il a dit la Lorraine, c'est sans doute la région qui a le plus souffert depuis les années 2000. Contrairement, on a beaucoup souffert dans les crises d'industrie de base, mais on souffre beaucoup encore aujourd'hui. Et là, on a des éléments intéressants qui vont faire la jonction avec le prochain contrat de projet État-région ou le prochain contrat de plan qui doit être négocié et signé en principe au mois de mai-juin de l'année 2014. Voilà, pour moi, c'est plus un appel à mobilisation. Il y a des choses intéressantes, il y a sans doute des choses sur lesquelles on peut discuter, mais mobilisons-nous, moi, je redis derrière M. le maire, s'il y a des choses intéressantes, et on a tout à gagner dans cette opération au niveau de Metz.
Merci, M. Krosner. Voilà, c'était de l'information toute fraîche. Je voudrais vous donner une autre information qui concerne la grande nef du centre Pompidou-Metz. Puisque la grande nef du centre Pompidou-Metz accueillera au printemps 2014, pour une durée d'au moins 2 ans, une exposition exceptionnelle de chefs-d'œuvre du XXe siècle, de grands noms et surtout de grands formats. On vous distribue les documents pour que vous ayez sous les yeux des images de ces œuvres. Il y a du Picasso, Miro, Frank Stella, Anish Kapoor, Soulages, Léger. Vous allez les voir, on vous les distribue. Alors, cette exposition s'intitulera « Phare ». Elle s'inscrit dans la priorité d'irriguer l'ensemble du territoire national, a dit la ministre de la Culture, avec les œuvres du Centre Pompidou-Paris. Elle profitera donc à la Lorraine. Alors, je rappelle que le Centre Pompidou-Metz, c'est 1 800 000 visiteurs en 3 ans, c'est-à-dire une réussite exceptionnelle. Mais malgré tout, il a été jugé nécessaire d'avoir, en quelque sorte, des œuvres et des produits d'appel, des valeurs sûres, en quelque sorte, de la culture universelle, en même temps que des expositions à thème. Nous avons déjà eu 13 expositions à thème qui sont remarquables, mais qui, pour certaines d'entre elles, peuvent présenter un caractère assez pointu qui n'est pas forcément tout de suite évident pour le grand public. Alors, le bilan flatteur que nous avons enregistré jusqu'à présent peut être consolidé par cette exposition phare qui viendra gommer la déception de certains visiteurs qui, entre deux expositions temporaires, trouvaient que le programme était assez faible. Alors, les chefs-d'œuvre qui sont prêtés à Metz par le Centre Pompidou-Paris ne sont pas puisés dans les réserves, mais sont essentiellement des œuvres qui ont été présentées plus ou moins récemment dans les salles. Vous noterez néanmoins qu'elles sont toutes de grande dimension, ce qui permet de les exposer effectivement dans la nef du Centre Pompidou-Metz. Alors, cette exposition phare s'ajoutera aux autres expositions temporaires et ne deviendra pas une collection permanente. Il est possible que cette exposition dure plus de 2 ans, ou que, par la suite, on en remplace au fur et à mesure des œuvres d'une façon glissante. Laurent Lebon a indiqué, pourquoi pas, 20% chaque année, au fur et à mesure des années qui passent. L'œuvre phare de cette exposition sera « Personnages et oiseaux de nuit » de Joan Miró, vous l'avez ici, hein, en deuxième page, en bas de la deuxième page, qui est proposé comme étant en quelque sorte l'œuvre d'appel pour cette exposition. Alors, au-delà de ce prêt d'œuvre, le pacte lorrain, le pacte État-Lorraine récemment signé a prévu 4,6 millions pour le centre Pompidou-Metz, dont 500 000 directement pour l'emballage et le déménagement de ces œuvres-là et leur installation, ce qui nous permettra de ne pas puiser dans le budget du centre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, ces œuvres sont présentées dans une scénographie particulière qui sera réalisée par Madame Claire Garnier, et autour de ces œuvres seront présentés des films relatifs à la création de ces œuvres et tout un tas d'objets pédagogiques permettant de comprendre la façon dont ces œuvres ont été élaborées et quelle était au départ leur mission. Il s'agisse des Delaunay. Il y a un nouveau rideau de scène de Picasso qui va arriver. Ces œuvres-là seront remises dans leur contexte. Delaunay, par exemple, la grande exposition universelle 1937, je crois. Voilà le projet, donc à la fois des œuvres et en même temps une pédagogie autour de ces œuvres. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ça s'est passé, c'était hier, non ? Mardi au musée, au ministère de la Culture, en présence de tous les responsables de la ministre de la Culture, bien entendu, notre Messine, et puis de tous les responsables du Centre Pompidou. Voilà ce que je pouvais dire comme... Oui, monsieur Thiel, je vous en prie.
Oui, monsieur le maire, merci d'abord de ces deux communications qui sont extrêmement importantes, l'une et l'autre.
Ah ben vous pouvez, oui.
Oui, donc...
Monsieur Thiel la demande si gentiment
si,
que je la donne.
Si vous permettez, monsieur le maire, je voudrais revenir, mais très très rapidement, sur le pacte lorrain. Pour vous dire, puisque ça faisait partie de vos communications, que nous présentons ce pacte lorrain comme quelque chose de tout à fait exceptionnel. Laissez-moi vous dire, monsieur le maire, et permettez que je le dise, que 300 millions d'euros pour accompagner un certain nombre d'objectifs, c'est peu. Toute aide est bonne à prendre, mais c'est extrêmement peu au regard du territoire de la Lorraine. Je n'ai pas fait les comptes, mais si je compare ce qu'on donne à la région Lorraine par rapport, mutatis mutandis, hein, à ce qu'on donne sur Paris à la région parisienne, compte tenu de leur importance, pas simplement comme ça, mais en proportion, je suis sûr qu'on ne s'y retrouve pas. Pour que l'on ait une idée, d'ailleurs, de 300 millions d'euros, je dirais que c'est jamais que 30 ou 40 millions de plus que notre métis. Voilà ce que ça représente. Ensuite, on a eu une annonce du président de la République aujourd'hui concernant l'axe sidérurgique. C'est bien, mais dire qu'on va développer un laboratoire public sur les recherches sidérurgiques alors qu'on possède le plus grand laboratoire privé du monde avec l'IRSID, je veux dire, il faudrait au moins que ça soit complémentaire. Et de ce point de vue-là, nous n'en savons pas plus aujourd'hui. Alors, je crois que la compétitivité de la Lorraine, monsieur le maire, serait davantage affirmée s'il y avait déjà un changement de politique nationale. Nous sommes frontaliers de l'Allemagne. Et au moment même où Angela Merkel vient d'être reconduite, très franchement, au pouvoir en Allemagne, je dois dire que je crains que la disparité s'approfondisse entre la France et l'Allemagne. Parce que la France, de mon point de vue, ne suit pas la bonne politique économique, alors que l'Allemagne est engagée depuis très longtemps et va la poursuivre. Et c'est cela, au niveau de nos frontières, notamment avec l'Allemagne, qui fera demain une nouvelle difficulté pour la Lorraine. La France s'engage dans la surfiscalité, la dette de l'État s'accroît. Je crois que rien que ces deux indicateurs me semblent quand même périlleux par rapport aux annonces présidentielles. Alors maintenant, revenons au Centre Pompidou, deuxième sujet important, je pense ne pas avoir été long sur le pacte. Alors, sur le Centre Pompidou-Metz, d'abord je voudrais distinguer la méthode des annonces du fond, si vous le permettez. Alors la méthode m'a beaucoup étonné, parce que j'ai connu des prédécesseurs de Madame Filippetti, Jean-Jacques Ayongon, pour ne pas le nommer. Et j'ai collaboré avec lui lorsque j'étais en charge des affaires culturelles de la ville. Dieu sait que l'accouchement de Pompidou pour Metz n'a pas été simple. Surtout, entre parenthèses, que Nancy était rentrée dans la danse à un moment donné pour obtenir autre chose et quelques compensations. Mais passons, ça a retardé au moins de 6 mois ce dossier, je le dis et tout le monde le sait. Mais jamais, jamais, lorsque l'on est au pouvoir, et vous l'êtes, au niveau du ministère, puisque le gouvernement et le président sont des vos amis, vous l'êtes à la région Lorraine, et vous l'êtes ici à Metz. Jamais je n'ai vu qu'une discussion, qui pour moi était une discussion importante, soit affichée sur la place publique. Jamais. Si Madame Filippetti et Monsieur Masseret avaient quelques idées pour le Centre Pompidou, une réunion technique au ministère, c'est comme ça que j'ai toujours connu les choses, suffisait amplement. Pourquoi le président Masseret fait-il du chantage sur sa participation financière sur le Centre Pompidou? Ça a été très mal vécu. Pourquoi Madame Filippetti, qui a tous les pouvoirs en matière culturelle, ne fait pas une réunion technique et politique avec vous n'est-ce pas, dans son cabinet et qu'elle règle les affaires. Alors je cherche à qui cela profite, ce genre d'annonce. Est-ce que c'est pour la publicité du président Masseret? Est-ce que c'est pour la publicité de Madame Filippetti? Je ne sais pas, mais ça ne fait pas la vôtre, monsieur le maire. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que si nous étions aux affaires, moi j'aurais mal ressenti, je ne vous le cache pas, une déclaration similaire de monsieur Longuet ou une déclaration similaire du ministre de la Culture de l'époque. Je l'aurais mal pris, je vous le dis. Alors ça, c'est pour la méthode. Je crois que l'on pouvait faire largement autrement. Mon reproche ne vous concerne pas, monsieur le maire, parce que, au contraire, je dirais que vous avez été sur ce sujet de la discrétion qu'il fallait avoir. Elle concerne vos amis. Alors ensuite, sur le fond. Sur le fond, je m'étonne. Parce que, ayant participé dans les cabinets ministériels à toutes les réunions, y compris les réunions sur la ligne artistique du Centre Pompidou, j'avais toujours compris que le Centre Pompidou-Metz était le petit frère du Centre Pompidou de Paris. Or, qu'est-ce que le Centre Pompidou de Paris ? C'est un centre qui est un centre d'art, ouvert naturellement à de très grandes expositions temporaires qui font son succès. Une fois c'est Dali, une fois c'est le design, une autre fois on a même eu Tintin et Hergé, c'était très bien, le commissaire de l'exposition en étant d'ailleurs cet excellent monsieur Lebon, qui je l'espère dans cette affaire ne sera pas inquiété, parce qu'il fait de très belles expositions temporaires, et il est connu pour ça, partout dans le monde, et les expositions temporaires du Centre Pompidou Paris servent d'appel, si j'ose dire, comme partout, et ont un succès considérable. J'irai à Metz aussi. À Metz, nous avons eu d'excellentes expositions temporaires. D'ailleurs, je ne trierai pas, je les ai tous trouvées, pour ma part, excellentes. Qu'est-ce en plus que le Centre Pompidou Paris ? Eh bien, c'est le musée d'art moderne qui présente des œuvres de manière semi-permanente, puisqu'elles tournent tous les 2 ou 3 ans. Certaines œuvres restent constamment, mais très peu, et les autres tournent et constituent tout ce qui est visible, je dirais, pendant 2 ou 3 ans, dans les étages 2 et 3 du Centre Pompidou, les expositions temporaires ayant généralement lieu soit au rez-de-chaussée, soit dans la dernière galerie. Troisièmement, c'est un centre de lecture et de documentation, appelé Bibliothèque du Centre, et qui, depuis bien longtemps, ne communique plus avec le reste du Centre Pompidou, comme vous le savez, puisque bien qu'il soit installé dans le même bâtiment de Renzo Piano, l'entrée est tout à fait différente et on ne peut plus communiquer entre les deux. Donc je ne reviens pas sur le fait qu'une bonne médiathèque centrale de Metz aurait été très bien à côté du Centre Pompidou pour compléter, je dirais, cette offre culturelle, mais je reviendrai simplement sur les expositions du Centre Pompidou. Lors des discussions que j'avais avec Jean-Jacques Ayagon et le précédent président du Centre Pompidou, les précédents présidents, il a toujours été question de grandes expositions temporaires et d'avoir des expositions semi-permanentes, comme à Pompidou, qui pouvaient ainsi éviter que certaines galeries se présentent vides aux visiteurs, et ce qui est toujours un petit peu regrettable. Donc, le bâtiment n'était pas tout à fait achevé quand vous avez repris les rênes dans cette affaire-là. Pas du tout, oui. Mais la ligne stratégique sur le plan de la politique culturelle, pouvait être maintenue. Donc, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi il n'en était pas ainsi. Alors, ce qui nous est proposé ici, moi, je trouve que c'est très bien, mais il y a une chose qui me gêne. On dit l'exposition phare. Non, c'est pas ça qu'on attend. C'est que des œuvres comme celle-ci soient mises pendant 2 ou 3 ans au CIMES de Metz et qu'ensuite elles soient progressivement remplacées par d'autres œuvres. Ça s'appelle pas une exposition, ça. Ça s'appelle au contraire un accrochage permanent. Et lorsque le Centre Pompidou a besoin de l'ensemble des capacités et des surfaces pour des grandes expositions temporaires, les exceptionnelles expositions temporaires, je pense notamment à chef-d'œuvre ou à 1917, par exemple, eh bien, on décroche les œuvres pendant l'exposition temporaire et on les remet après. Voilà. C'est comme ça que ça aurait à mon sens, toujours dû fonctionner. Et je ne sais pas pourquoi toutes ces négociations, tout ce qui avait pas abouti, puisque le centre n'était pas sorti de terre, comme vous le dites, mais pourquoi ceci a été abandonné. Alors, je me réjouis néanmoins des annonces de la ministre de la Culture dont elle vous a fait part, mais en espérant qu'il s'agisse effectivement de cela, c'est-à-dire d'une installation semi-temporaire d'œuvres de Pompidou. Et je me souviens qu'à l'époque, on nous disait toujours, il y en a tellement dans les caves de Pompidou, enfin, ce n'est pas vraiment les caves d'ailleurs, puisque les réserves sont ailleurs, qu'il y a de quoi alimenter Metz en exposition pendant au moins 60 ans. Voilà.
Madame Zimmermann.
Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, je voudrais dire d'abord pour le pacte lorrain, je crois, si vous voulez, oui, effectivement, la somme peut être paraître dérisoire, mais je dirais que je serais un tout petit peu plus nuancée sur les critiques, dans la mesure où, étant quand même parlementaire depuis un certain nombre d'années, j'ai vu beaucoup de discours qui ont été faits, beaucoup de promesses qui ont été faites, et malheureusement, aujourd'hui, la plupart du temps, lorsque la Lorraine s'en sort, c'est tout simplement parce qu'elle se relève les manches, et lorsque la Moselle s'en sort, c'est lorsqu'elle se relève les manches et qu'elle se met au travail. Et je dirais que tout ce qui peut venir nous aider est bon à prendre. Donc, je crois vraiment que là-dessus, je souhaite vivement que dans les 2 ou 3 années qui viennent, tout ce que j'ai entendu ce soir puisse au moins avoir un début de réalisation. Sinon, ce ne seront que des promesses et des promesses et des promesses et des promesses. Et honnêtement, je crois que depuis que je suis parlementaire, j'ai toujours tenu le même langage. La Moselle a travaillé pour la France, a fait vivre la France pendant des décennies. Et malheureusement, lorsque la Moselle a été dans les difficultés, non pas parce que les Mosellans sont des fainéants, mais tout simplement parce que l'économie mondiale faisait que, à la fois, et le charbon et la sidérurgie se sont trouvés en période de crise, ce sont les Mosellans qui ont été inventifs, ce sont les Mosellans qui ont fait venir notamment l'automobile. Et lorsque vous évoquez l'automobile, monsieur le maire, j'aurais souhaité que le président de la République prenne réellement l'engagement, parce que lorsque vous évoquez notamment, et vous et monsieur Krosner, notre usine phare de Trémerie, parce que oui, c'est la première usine du monde de moteurs diesel. Ce que je souhaiterais, c'est qu'aujourd'hui, on soit en capacité, comme je l'ai demandé lors de 2 questions d'actualité, de prendre le point de vue qui a été celui de malheureusement le ministre que j'aurais aimé voir aujourd'hui à Florange. Quand on me dit, le ministre du redressement productif, qu'on fait des annonces et que le ministre n'est pas là, je me pose des questions. Mais c'est le seul qui... Eh bien oui, mais attendez, il faut assurer tous ses amis, mes enfants, parce qu'à partir du moment où les amis peuvent ramener, eh bien oui, je vais vous dire, nous avons été dans les mêmes conditions, il faut assurer, il faut assumer tout le monde. Et notamment sur la taxe diesel, je crois, si vous voulez, qu'il faut quand même que nous soyons extrêmement vigilants. Et monsieur le maire, vous qui êtes en ligne directe avec le président de la République, je souhaiterais que, lors du prochain budget, le ministre, notamment de l'Environnement, ne dise pas simplement « on va reporter parce qu'il y a des élections municipales en 2014 et qu'on n'a pas envie de rajouter encore une taxe sur les autres taxes », mais je crois, si vous voulez, qu'il ne suffit pas de s'emparer, notamment de l'usine de Trémerie, il faut l'accompagner. Et j'aurais souhaité, à certains moments, ceux qui ont tellement voulu avoir le pôle, j'aurais souhaité les voir monter au créneau pour bien mettre en évidence le fait que si on touche notamment à ces moteurs, il faut bien savoir que, et vous le savez, monsieur le maire, vous connaissez aussi bien que moi aujourd'hui les chiffres de chômage dans l'industrie automobile et notamment à Trémerie, et les chiffres de chômage partiel. Donc, si vous voulez, je crois que là-dessus, je prends tout ce qui vient parce que je le souhaite ardemment. Je veux que les promesses se transforment rapidement en actes parce que le souvenir de l'INSEE et de la façon dont vous avez ramé le nombre de fois où vous nous avez dit il y a tant d'emplois, tant d'emplois, tant d'emplois, oui, mais au départ, c'était un petit peu plus. Donc, je dirais que, pour moi, la parole publique est quelque chose de tellement important que lorsque on en fait la communication, il faut vraiment que cette parole publique soit une parole qui soit suivie d'actes. D'autre part, monsieur le maire, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ce pacte doit être un appel à mobilisation. Oui. Et un appel à mobilisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, non seulement, comme l'a dit très justement Patrick Thiel, l'Allemagne, mais également le Luxembourg. Nous sommes, lorsque vous évoquez le fait que nous sommes centrales, que nous sommes pôle européen, la question que je pose, y a-t-il eu des accords avec la SAR, avec plus loin l'Allemagne, avec le Luxembourg? Parce qu'il ne suffit pas de faire des grandes incantations, mais il faut avoir la réalité des accords pour être en capacité de le dire. Et c'est là-dessus où je comprends l'appel à mobilisation. Je suis prête à me mobiliser avec vous parce que je crois que l'avenir de la Moselle en dépend. Et je pense que aujourd'hui, monsieur le maire, nous travaillons plus pour nous. Nous travaillons plus pour, je dirais, les trois quarts du conseil municipal. Nous travaillons pour nos enfants et nos petits-enfants qui ont envie de rester en Moselle, tout simplement parce que vous, par le travail que vous avez effectué en Moselle, moi, par l'enseignement que j'ai donné à mes jeunes, j'ai envie que ces cerveaux restent tout simplement en Moselle et continuent à produire en Moselle. Donc, le pacte, oui, c'est pas flambant, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est un appel à mobilisation. Je l'ai entendu, je veux bien me mobiliser, mais par contre, je ne veux pas que les promesses n'engagent que ceux qui les ont écoutées ce soir. Donc, monsieur le maire, oui, mais oui, avec des actes. Deuxième autre point, très rapide, parce que Patrick est beaucoup plus, doué que moi dans sur cette question, parce qu'il l'a suivi du début jusqu'à 2008. J'ai quelques questions à vous poser, monsieur le maire. Première question, monsieur le maire, si mes souvenirs sont bons, vous êtes en place depuis 2008. Il a fallu que Aurélie Filippetti, heureusement qui découvre tout d'un coup qu'elle est messine, et ministre en plus, quelle chance, parce qu'en plus elle a eu de la chance, parce qu'elle a été choisie quand même pour venir avec le président de la République. Donc il a fallu qu'Aurélie Filippetti, que le président du conseil régional, menace pour que la messine Aurélie Filippetti se fendent d'une réunion et disent « Ah oui, 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 attention ». Et lorsque, monsieur le maire, vous avez l'audace de me répondre « Mais écoutez, madame la conseillère municipale, vous avez dans votre groupe madame Collin-Austerlier qui est au conseil d'administration ». Non, mais monsieur le maire, mais est-ce que vous vous imaginez un seul instant que madame Collin-Austerlier ne nous avait pas informé? Madame Collin-Austerlier ne représente pas la ville au conseil d'administration. Madame Collin-Austerlier représente tout simplement la région. Donc, rassurez-vous, monsieur le maire, j'étais informé, mais j'aurais souhaité que celui qui représente la ville au conseil d'administration, depuis 2008, soit celui qui, tous les ans, nous fasse, en fasse un honneur de nous donner un compte-rendu. Et lorsque, incidemment, au long des rapports qui concernaient directement ou indirectement, même lorsque on évoquait le rapport de l'amphithéâtre, et lorsque, avec un petit peu d'audace, et un petit peu de malice. J'ai essayé de vous poser une question sur le Pompidou, mais j'espérais désespérément qu'à un moment ou à un autre, vous évoquiez ce que Aurélie Filippetti et Jean-Pierre Masseret ont mis en évidence. Donc, la lettre que nous avons signée avec M. Thiel, je vais vous dire, Monsieur le maire, c'était simplement pour que M. Dominique Gros, représentant la ville de Metz au conseil d'administration de Pompidou, mais rende des comptes au conseil municipal et par le conseil municipal, mais à l'ensemble des Messins. Et croyez bien, Monsieur le maire, que ce n'était pas du tout pour vous mettre en difficulté, parce que vous savez, je crois que vous comme moi, Monsieur le maire, nous avons mais qu'une seule ambition, c'est que, d'abord, le centre Pompidou marche, que le centre Pompidou soit un nouveau phare, plus tous les autres phares qui existent déjà à Metz, mais un nouveau phare qui soit vraiment, je dirais, quelque chose qui attire encore plus, notamment dans le pôle que je viens de voir sur l'aménagement du territoire au niveau du tourisme. Donc voilà, si vous voulez, l'objet de notre lettre. Et ce n'était pas du tout une lettre polémique, monsieur le maire, parce que je crois, si vous voulez, que comme monsieur Krosner, je crois que lorsque à la fois un territoire est en difficulté, comme il est en difficulté, la Moselle, comme elle est en difficulté. Je crois que lorsqu'un territoire est en difficulté, les polémiques politiciennes, je crois qu'elles sont dépassées. Je crois, si vous voulez, que aujourd'hui, heureusement, nos électeurs sont là pour simplement nous dire « Mais nous vous avons donné un mandat. Qu'en avez-vous fait ? Nous vous avons donné un mandat. Comment faites-vous fonctionner notre argent ? Comment l'utilisez-vous ? Donc, si vous voulez, monsieur le maire, je crois que nous avons des valeurs communes. Donc, ne voyez pas à la fois de la malice et de la polémique politicienne lorsque je vous demande, avec Patrick Thiel, simplement un rapport sur le Pompidou, parce que lorsque l'on m'évoque le nombre de visiteurs... Mais enfin, écoutez, monsieur le maire, c'est pas pour vous embêter, c'est simplement peut-être pour que nous réfléchissions ensemble. Lorsque monsieur Krosner dit l'appel à mobilisation, mais il y a appel à mobilisation également pour le centre Pompidou, parce que tout ce qui sera déficitaire au centre Pompidou sera déficitaire pour l'ensemble de l'agglo. Et si l'ensemble de l'agglo a des difficultés, automatiquement la ville en aura également. Donc monsieur le maire, essayons de rester, j'irais, politique dans le sens noble du terme, et arrêtons des débats, des combats, si vous voulez, qui n'intéressent même pas les Messins.
Et alors, monsieur le maréchal, vous voulez prendre la parole ?
Oui, plus
exceptionnellement.
Rapidement. Merci, monsieur le maire. Juste quelques mots sur le pacte dont il a été fait allusion.
C'est au nom des présidents de groupe, on va considérer que c'est le président du groupe de la majorité, monsieur le maréchal.
J'en suis très honoré, voilà. Monsieur le maire.
Monsieur le maréchal, oui. Vous avez la parole, puis après ça, on passera à l'ordre du jour.
La question de l'emploi est une question essentielle et qui est au cœur des préoccupations de la population. La venue de M. Hollande est quand même un événement dont qu'il faut replacer dans ce contexte. Je rappelle qu'aujourd'hui, on ne produit plus d'acier dans la vallée de la Fenche alors qu'on produisait de l'acier depuis 1765. Cela nous a fait perdre près de 600 emplois. Et de ce point de vue-là, la réponse apportée n'est pas à la hauteur de la nécessaire lutte contre l'austérité qui appelle une reconquête de l'industrie. Monsieur Thiel a parlé de l'Allemagne. Je vais en dire un mot. J'ai eu l'occasion de débattre avec des syndicalistes de Sarstal. Quelle est la particularité de Sarstal ? Il y a une participation publique du Land de Sarre, selon une composition assez particulière, qui leur permet de peser sur les décisions. Et si la France s'était autorisée à limiter la toute-puissance de ces rapaces de la finance, on produirait encore de l'acier en Lorraine. Monsieur Thiel, quand vous parlez de l'exemple allemand,
Monsieur Maréchal, c'est à moi que vous parlez.
Excusez-moi, monsieur le maire.
Alors, c'est à moi que vous parlez, à moi, parce que si vous parlez au nom du groupe, je vais vous couper la parole.
D'accord, alors je vais m'adresser à vous, monsieur le maire,
voilà, je vous
pour vous dire très simplement que je considère même s'il y a des points de vue positifs dans le pacte pour l'emploi, il faut aujourd'hui, au moment où on discute du budget de la nation, une fois de plus, on assiste à des transferts de finances du ménage vers des entreprises. Et que cette politique-là, son véritable contrôle de l'aide publique, on ne s'en sortira pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner des leviers d'intervention à la fois au pouvoir public, aux salariés, dans l'entreprise, pour qu'on puisse décider collectivement de l'utilisation des richesses produites par le travail. Et de ce point de vue-là, le voyage de M. Hollande n'est pas à la hauteur des attentes de la population. Je vous remercie.
Très bien. Écoutez, merci pour ce débat. Je pense que c'est bien que chaque président de groupe soit intervenu. Et M. Maréchal, au nom du groupe de la majorité, comme ça, on a réparti un petit peu les interventions. Je voudrais simplement donner 2-3 points d'information complémentaires. Madame Zimmermann a fait allusion à l'INSEE. Une information, le lancement du jury pour la restructuration de l'ancienne gare a été fait par l'État. C'est-à-dire que le processus se déroule. C'est cette semaine. Et donc, c'est une étape importante parce que, compte tenu de l'impécuniosité de l'État, on a toujours peur qu'il y ait des remises en cause. Actuellement, les salariés de l'INSEE sont au Technopôle et leurs locaux sont complètement remplis. Hein, et donc, le processus se déroule. Deuxièmement, je voulais apporter 2-3 précisions. D'abord, moi, je m'excuse, madame. Je m'excuse d'avoir avoir fait allusion à votre voisine, parce qu'effectivement, vous m'avez posé la question, nous souhaiterions préparer ce conseil en toute objectivité, obtenir la transmission des rapports faits au conseil d'administration du centre, ainsi que tous les éléments financiers et de statistiques des entrées payantes et gratuites et des différents documents comptables. Alors, effectivement, vous m'avez dit que vous les aviez déjà par Mme Collin-Osterlet, donc vous me les avez demandé quand même. Eh bien, écoutez, voilà, vous les aviez déjà, et comme ça, vous les avez eu 2 fois, puisque je vous les ai envoyés. Voilà. Donc, c'est bien. Non, mais allez, j'ai lu votre demande. Je vous ai répondu que je pensais que vous les aviez déjà. Vous me dites que vous les aviez déjà, effectivement. Mais vous avez le droit de me les demander quand même. C'est parfaitement légitime, mais vous venez de me préciser que vous les aviez déjà. Donc, voilà. Attendez, non, mais madame, je voulais m'excuser pour la réponse que je vous avais faite. Vous m'expliquez que... Voilà. Alors, troisièmement, s'agissant de M. Thiel, ce que vous dites, M. Thiel, sur le fait que, dès le départ, il avait été prévu d'avoir des collections semi-permanentes, m'étonne beaucoup, parce que moi, je ne le savais pas. Et au contraire, ça a été exactement l'avis contraire, notamment du directeur actuel, Laurent Lebon, qui a, depuis que nous sommes là, expliquer qu'il était hors de question d'avoir des collections permanentes. Et donc, il s'agit donc bien d'une inflexion importante par rapport au schéma de départ. Je m'excuse de vous le dire, mais je connais bien le sujet aussi, moins bien que vous, bien entendu. Quoique je connaisse bien M. Ayagon, aussi. Vous le verrez peut-être bientôt. Et donc, écoutez, je trouve que M. Ayagon et que M. Thiel l'apprécient, moi aussi. Non, on est deux, c'est bien. Et donc, je voudrais vous dire que...
Avant, nous avions son pouvoir...
Sur le thème...
C'est un électeur messin, avant, nous avions son pouvoir, ça fait quelque temps que vous l'avez, je crois.
Ah, vous êtes bien informé. Hein. Alors, M. Thiel, je voudrais vous dire que c'est une inflexion. Alors, peut-être qu'il correspondait à vos vœux, à vous, mais qui ne correspondait pas du tout au principe de départ qui était une salle d'exposition, enfin 4 salles d'exposition de 5000 m². Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, je connais votre attachement au centre et je ne ferai pas non plus moi-même une polémique là-dessus. Je pense que ces informations sont des informations intéressantes pour le Conseil.